Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Mathilde, aujourd'hui à l'antenne sur Radio Slash, la web radio du lycée Montplaisir. Vous écoutez la troisième émission des Clés de l'Immo, l'émission de Radio Slash qui vous fera un point régulier sur l'actualité de l'immobilier. Cette émission a été préparée par toute la classe de deuxième année du BTS Profession Immobilière. Nous sommes actuellement le 3 décembre, si je ne dis pas de bêtises, et il est 11h. C'est parti! Alors au sommaire, aujourd'hui nous débuterons avec Alice. Salut Alice.
Salut Mathilde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de l'obtention des indemnités en cas de catastrophe naturelle.
Ah, sujet d'actualité, super. Ensuite Clémence, bonjour Clémence.
Bonjour Mathilde, nous allons voir aujourd'hui si on peut se passer d'un agent immobilier pour vendre son logement.
Ok, intéressant. Ensuite Charlotte, salut Charlotte.
Bonjour Mathilde, moi je vais vous parler d'une nouvelle proposition de loi concernant la sécurité des loyers impayés pour les propriétaires bailleurs.
Ok. Ensuite Brice, salut Brice.
Bonjour Mathilde, aujourd'hui nous allons parler à savoir s'il faut acheter ou louer son logement.
Ok, et Léa, salut Léa.
Salut Mathilde, alors aujourd'hui je vais vous parler du CROUS qui a gelé les loyers des étudiants.
Ok, ensuite nous passons à Margot, salut Margot.
Bonjour Mathilde, alors aujourd'hui moi je vais vous parler de l'immobilier ancien qui bat de nouveaux records.
Super, merci. Et pour finir, Jade. Salut
bonjour
Jade.
Bonjour Mathilde. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet assez inhabituel. C'est donc le nombre de châteaux à la vente en France qui devient de plus en plus important.
Super. Continue. Donc pour commencer, Alice, tu peux nous parler de ton info?
Oui, alors vous faites peut-être partie des sinistrés du tremblement de terre de l'Ardèche de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter qui a frappé le département de la Drôme et de l'Ardèche. C'était le 11 novembre. Donc c'est en tout 900 logements qui ont été endommagés sur la ville du Teil. Et 9 communes ont été reconnues catastrophes naturelles. Alors comment être indemnisé si son habitation était endommagée? Avant tout, il faut être assuré pour les catastrophes naturelles. Donc vous pouvez l'être avec une assurance habitation multirisque ou avec une assurance spécifique. Les assurances couvrent les catastrophes telles que les inondations, les avalanches, sécheresses, tremblements de terre, glissements de terrain et coulées de boue. C'est un arrêté ministériel qui déclare l'état de catastrophe naturelle, permettant ainsi d'obtenir une indemnisation pour ceux assurés uniquement pour les catastrophes. Alors, il faut ensuite réaliser sa demande à son assurance dans les 10 jours qui suivent la publication de l'arrêté. Et l'indemnisation sera ensuite versée dans les 3 mois.
Waouh, c'est vrai que ça a été un truc un petit peu surprenant, mais on fait les choses pour que ça aille mieux pour tout le monde. Ensuite, Clémence, tu peux nous parler de ton info?
Alors, avec Internet, vendre son logement est devenu plus facile, mais il faut prendre des précautions pour ne pas perdre du temps et de l'argent. En vendant votre bien par vous-même, vous pouvez espérer faire des économies contrairement à un passage chez un agent immobilier. Beaucoup de sites sont mis à disposition comme Le Bon Coin, Paru Vendu, etc. Mais encore faut-il proposer le logement à juste prix, rédiger une annonce accrocheuse, prendre des photos de bonne qualité, puis mettre tous les éléments en ligne. Cela demande de temps et des compétences. Pour ne pas se tromper lors de l'estimation, il est également possible de s'appuyer sur des sites comme meilleuragent.com, efficity.com ou encore seloger.fr, à condition de bien respecter des préconisations et de ne pas vouloir fixer un prix très haut au-dessus des estimations proposées. Pour autant, estimer le prix de vente du logement n'est pas si simple. Cela implique de bien connaître le marché, de visiter le logement en détail et de réaliser une évaluation avec beaucoup d'objectivité, à ce que les personnes qui vendent seules ont parfois du mal à faire. Une fois cette étape franchie, vendre sans agent implique de se rendre disponible lors des candidats acquéreurs se présentent pour faire visiter le logement autant de fois que nécessaire. Enfin, la négociation sur le prix de vente n'est pas facile à mener sans aide. Un agent immobilier de qualité est un intermédiaire précieux entre l'acheteur et le vendeur car il permet d'établir un dialogue sans aboutir à un accord. Pour les propriétaires qui redoutent de vendre seuls, une solution intermédiaire est possible avec des agences immobilières en ligne. Pour pouvoir facturer les honoraires plus bas, les agences en ligne fournissent des services à la carte. Par exemple, d'évaluer le prix du logement à distance par le biais d'une vidéo effectuée par le propriétaire-vendeur. Le propriétaire-vendeur tente par ces solutions, doit cependant prendre des précautions avant de partir sur une offre en ligne. Sur le site internet, doit indiquer où l'agence est implantée et dans les mentions légales, vous devez voir ce qui est le titulaire de la carte professionnelle et le numéro de celle-ci. La carte est obligatoire pour exercer ce métier. Si Le site n'indique rien, il est préférable de ne pas donner suite et de ne verser aucune somme d'argent, car le consommateur n'est pas protégé par la loi Auguet, qui régit la profession d'agent immobilier.
En tout cas, pour être sûr de ne pas se tromper, vaut mieux passer par un agent immobilier. Ensuite, Charlotte, tu peux nous parler de ton info ?
Oui, alors l'investissement dans l'immobilier attire beaucoup de monde, mais il est risqué car on constate 2% d'impayés en France. D'après un article de Capital publié le 25 novembre 2019, une nouvelle proposition de loi apparaît du député LREM Michael Négal pour obliger les agents immobiliers à garantir les loyers impayés aux propriétaires bailleurs. Le but est de garantir les loyers afin que les propriétaires bailleurs se tournent de plus en plus vers les agences et qu'il y ait plus de sécurité dans le marché locatif. Par contre, cette réforme risque d'avoir des conséquences sur les honoraires des agences et des assureurs qui vont augmenter de façon à couvrir les impayés de loyers. Cette réforme suscite des avis différents. D'un côté, du coup, les prix qui risquent d'augmenter. Les locataires sont sélectionnés de manière plus stricte. Cependant, les assureurs estiment qu'avec l'augmentation de leurs clients, les primes d'assurance devraient même diminuer et ils s'engagent également à ouvrir l'accès à la location à des candidats locataires en situation instable. Si cette proposition est acceptée, il y aura quand même un gros travail de fond à réaliser au cœur même des agences et donc des formations.
Waouh, ok, merci à toi pour ton info. Brice ?
Oui. Aujourd'hui, nous nous posons la question à savoir s'il faut acheter ou louer son logement. D'après l'article paru dans Le Revenu du 1er décembre 2019, on a pu trouver des informations répondant à cette problématique. Concernant la location, les loyers sont versés à fonds perdus. L'argument de l'achat est d'autant plus fort car de nos jours, les prix immobiliers sont extrêmement bas, ce qui permet de rembourser plus rapidement son capital. Être propriétaire d'un bien va permettre de pouvoir le léguer, ce qui va créer un patrimoine à nos descendants. Cependant, l'achat coûte plus cher que la location. D'un côté de la balance, il y a le coût d'un crédit, le coût de l'assurance, l'ensemble des charges liées au bien et la taxe foncière. Il y a également deux autres coûts, les frais d'agence et les frais de notaire et les éventuels frais d'agence qui ne se produisent qu'une seule fois. De l'autre côté de la balance, il y a le loyer avec les charges et dans certains cas, la taxe des ordures ménagères, une assurance locataire et éventuellement des frais d'agence. Une équation à résoudre est nécessaire pour savoir si nous devons louer ou acheter son logement.
Ouais, tout à fait. Bah, des calculs sont à faire et voir ce qui est le mieux pour soi. Merci Brice. Léa, tu peux nous parler de ton info ?
Alors, selon le journal La Dépêche, le Crous a annoncé ce jeudi 28 novembre un gel exceptionnel en 2020 des loyers des étudiants résidents dans les logements universitaires pour faire face à la précarité. Le logement est le principal poste de dépense et la plus grosse difficulté que rencontrent les étudiants et leurs familles. On rappelle que le Crous permet de bénéficier de loyers peu élevés lorsqu'on est étudiant. En moyenne, une chambre Crous revient à un étudiant à 100 euros par mois. Un studio de 18 mètres carrés entièrement équipé, entre 150 et 200 euros par mois, une fois les aides au logement déduites. Suite aux nombreuses mobilisations étudiantes en cette fin d'année, le Crous s'est mis en plein accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer de répondre aux besoins des étudiants. Le Crous a fait cette annonce quelques semaines après la tentative d'immolation par le feu d'un étudiant devant un Crous à Lyon, qui avait expliqué son geste par les difficultés financières. Alors, est-ce que cette mesure permettra de calmer les mobilisations actuelles ?
Bah, en tout cas, ça pourra en aider plus un. Merci à toi, Léa. Margot, tu peux nous parler de ton info ?
Oui, alors le marché de l'immobilier ancien en France n'en finit plus de grimper, tant en volume qu'en prix. Cette dynamique s'explique par le déséquilibre entre l'offre et la demande et par la faiblesse des taux d'intérêt. Alors il y a cependant de grandes disparités territoriales. Depuis début 2019, en seulement 11 mois, les prix ont ainsi augmenté de 1,8% sur l'ensemble du territoire et de 4,7% dans les plus grandes villes en France, selon l'indice des prix de l'immobilier meilleur agent. Il y a en tête de palmarès Lyon, Nantes, Paris et encore Toulouse. Dans certaines villes, au contraire, Saint-Étienne, Dijon ou encore Nice, la tendance est à la baisse. Quant au volume des transactions, il a battu cette année son record absolu, dépassant avant même décembre le million de ventes.
Waouh, ok, ça fait un super chiffre. Merci à toi Margot. Et on termine avec toi Jade.
Oui. Alors, contrairement à l'offre de maisons et appartements sur le marché immobilier français, celle des châteaux est bien moindre. Selon le Figaro, le nombre de châteaux à la vente en 2010 ne dépasse pas les 800. Cependant, aujourd'hui, même si cela est toujours peu, le nombre est passé à 1500, soit donc quasiment le double. Donc on peut se poser la question de d'où peut venir cette explosion. Eh bien, comme vous devez vous en douter, le quotidien des foyers a bien changé. Puisque, en effet, les propriétaires se trouvent à la fin d'un cycle générationnel. Les grands-parents géraient en tant que bons pères de famille, en s'appuyant sur les revenus des terres. Les parents qui n'avaient plus les terres ont commencé à se trouver en difficulté. Et quant aux petits-enfants, ils préfèrent Londres ou Shanghai à une vie campagnarde. Il y a également un autre facteur, qui est donc le poids des travaux et les frais d'entretien, qui sont juste énormissimes. Vous vous en rendez compte déjà au quotidien avec les maisons, alors imaginez-vous un château. Donc la mise en vente de ces châteaux n'est pas toujours un choix très voulu. Mais que faire donc de toutes ces propriétés à la vente ? Eh bien, je dirais qu'il faille juste trouver une clientèle riche et de prestige, mais elle est généralement très exigeante, donc je souhaite bonne chance aux agents immobiliers qui vont s'en occuper.
Bah, on essaiera de relever le défi. Merci Jade. Bon, on arrive au terme de la troisième émission. Je pense qu'on a fait un petit peu mieux que la dernière fois, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, je vous remercie encore pour l'écoute. On regarde très régulièrement, voir un petit peu ce que les émissions donnent et les retours qu'on peut avoir. On vous remercie pour tout et on vous donne rendez-vous à la prochaine pour la quatrième émission. Merci à vous.